Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. De plus en plus de centres sportifs, des municipalités aussi, des centres de conditionnement physique proposent des activités intergénérationnelles, que ce soit du tennis, Zumba, des arts martiaux, pour les petits comme pour les grands. Donc, ça permet à des familles de prendre une pause dans un quotidien qui est souvent complètement fou pour bouger. Et tout ça a de nombreux avantages. Suzanne Laberge, professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, sera là pour nous en parler en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, dans le dernier livre de mon premier invité, Jean-François Vizina, un bouquin qui s'intitule « Tout se joue avant 100 ans », c'est publié aux Éditions de l'Homme, il est écrit qu'à l'échelle mondiale, les humains passent 3 milliards d'heures par semaine à jouer à des jeux vidéo. Donc, ce qui équivaut à notre société, dans notre société, au fait qu'un humain, quand il atteint l'âge de 21 ans, a accumulé plus de 10 000 heures de jeux vidéo. Le jeu, ça prend beaucoup de place dans notre vie. Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous, sur la vie? J'en parle à l'instant avec Jean-François Vizina. Merci d'être là, Jean-François, d'avoir quitté votre Québec pour le Grand Montréal. Ouais. Vous êtes également psychologue, en plus d'être auteur, conférencier, musicien. Et dans ce tout nouveau livre, vous m'avez appris un terme, la ludification, qui signifie prendre un problème et le transformer en jeu.
Tout à fait.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais le témoignage d'une femme qui, suite à un diagnostic de cancer et qui devait subir ou avoir des traitements de radiothérapie tous les jours. Quand elle se rendait à l'hôpital, elle s'y rendait à la course. Elle se disait « Ainsi, j'ai pas l'impression de me rendre à l'hôpital, à mes traitements, mais je cours 7 km tous les jours. » C'est un petit peu ça, la ludification.
Tout à fait. C'est se réapproprier sa liberté de jouer comme un sujet joue avec un obstacle, plutôt comme un objet qui subit l'obstacle. Parce que dans le livre, essentiellement, ce que je dis, c'est soit on joue, soit on est joué. Mm-hmm. Devant un obstacle, la maladie, peu importe quoi, est-ce que je vais apprendre à dealer avec, composer avec ou subir cet événement-là? Puis quand on dit jouer ici, là, c'est sérieux jouer. Regardez un enfant, c'est très sérieux un enfant qui joue. Donc, je ne veux pas dire que c'est léger. Je veux dire qu'on se réapproprie sa liberté d'être créateur devant l'événement qui risque de nous déstabiliser.
Je le disais en intro, ça peut nous apprendre des choses sur soi-même. Vous parlez beaucoup aussi des émotions qui expriment des besoins. On n'a pas tendance à voir nos émotions comme ça, mais peut-être plus comme des obstacles. Des fois, on veut les refouler.
Tout à fait. Donc, moi, le discours que j'ai, d'ailleurs, tout ce jeu avant 100 ans, c'est un discours d'espoir. C'est de l'espoir que je veux proposer aux gens. D'aller au-delà de la catégorisation des émotions. On a tendance à dire une émotion positive, négative. La façon dont j'aborde le problème, ou en fait la situation, c'est quand on dit qu'une émotion est négative, ça m'informe que mon besoin est négativement satisfait. Par exemple, quand j'ai peur, ça m'informe que mon besoin de sécurité est négativement satisfait. Ça ne veut pas dire que la peur, c'est mauvais comme émotion. Ça m'informe, ça me donne l'information. Les émotions, c'est le CNN de l'inconscient, si vous me permettez. Ça donne de l'information sur ce qui se passe en dedans. Donc, si je le juge, j'entendrai pas. Donc, être à l'écoute. D'ailleurs, c'est ce que je propose, moi, comme thérapeute, d'être curieux. Soyons curieux des symptômes, soyons curieux de ce qui nous arrive, soyons curieux des émotions qui nous déstabilisent, plutôt que les juger, plutôt que les différencier en bon, pas bon, mal, pas... Donc, voilà.
Au même titre que notre rapport aux autres.
Ah, surtout. Parce que très rapidement, on met une étiquette sur l'autre. Très rapidement, on a des bons, des mauvais. Et donc, à la limite, même si la personne en face de moi, elle est « mauvaise », entre guillemets, elle me met des obstacles, donc elle m'aide à jouer aussi, même si elle n'est pas dans mon équipe, elle m'aide à jouer pareil. Donc oui, c'est d'avoir un discours au-delà de la catégorisation, au-delà du bon, du pas bon. D'ailleurs, la notion d'être bon, c'est pas ça le jeu. C'est pas d'être bon, c'est de jouer. Hein? L'enfant qui joue, il joue pour jouer, pas pour être bon. Il apprend tranquillement dans une société d'hyper-performance à être bon. Mais l'enfant, il joue pour jouer. Et ça, c'est ça dans le livre, il y a quelque chose que je voulais vous faire ressortir, c'est la perte de la gratuité dans nos vies. C'est-à-dire faire quelque chose gratuitement juste pour le faire. Pas parce que je vais avoir un résultat quelconque, juste pour le plaisir de le faire.
Je vous écoute et je me rends compte, et ça se dégage dans votre livre, Jean-François Vézina, c'est que quand on joue à un jeu vidéo, on aime ça, les obstacles, justement.
Ben,
et dans la vie, on tente de les éviter.
Et ce qui est intéressant, c'est très pertinent ce que vous soulignez là, il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir peur des obstacles de la vie réelle et ils vont se réfugier dans le jeu vidéo parce qu'ils ont un sentiment de contrôler les obstacles. Mais quand je dis soit on joue, soit on est joué, ce qui caractérise une personne qui joue vraiment, c'est qu'elle fait face aux obstacles plutôt que fuir les obstacles. Donc, le jeu vidéo, je l'explore comme possibilité d'explorer. Quand j'ai des consultations, par exemple, avec des jeunes, je suis curieux. Est-ce qu'il est en train de fuir quelque chose? Mais effectivement, vous le soulignez, même si je fuis, il veut retrouver des obstacles. C'est juste qu'il a l'impression de contrôle. Le jeu vidéo lui donne une impression de contrôle, mm-hmm. alors que c'est souvent une illusion.
Ça revient souvent aussi ce parallèle-là avec l'enfance,
oui.
que
ouais.
les enfants sont peut-être nos meilleurs modèles pour réapprendre à jouer.
Ah,
on peut comment observer, nous, on a tous des enfants, soit on est parents, soit on a cette chance, mais sinon, il y a
on
des...
On a tous été enfants.
On a tous été enfants.
Et on peut le devenir encore.
Oui. Comment on peut les observer pour peut-être se réapproprier ça dans notre quotidien.
Il y a un poète québécois, Christian Vézina, qui a dit une super phrase
Est-ce
que j'adore.
C'est votre
non,
frère?
Non, j'aimerais ça qu'il soit dans ma famille, mais en tout cas, peut-être éloigné. Il dit « La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr. » La lumière dans le regard d'un enfant est un phare très sûr. Donc, cette vivacité d'esprit, cette curiosité, cet éveil, cette poésie qu'il y a dans l'enfance... qui progressivement disparaît, elle disparaît parce qu'on se met à avoir peur, peur du ridicule. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air si je fais ça? Et donc, progressivement, c'est la peur qui prend le dessus sur l'élan naturel de l'enfant de jouer avec tout ce qui est devant lui, puis la poésie naturelle de l'enfant aussi. Alors moi, c'est un livre d'espoir. Je dis, il n'est jamais trop tard pour être un enfant. Il n'est jamais trop tard pour réallumer cette petite étincelle phare. Le phare, il est très présent dans ce livre-là. C'est un symbole très important dans ma vie.
Mais c'est la genèse du livre.
Tout à fait. Je suis commencé avec une anecdote très, très simple. Les deux derniers gardiens de phare qui rendent les phares du Cordouan, un très, très beau phare de France. Et donc, ils rendent les clés du Cordouan parce que le métier de gardien de phare n'est pas édate. C'est plus utile. Et je trouve qu'il y a là une métaphore parce qu'à partir de là, tous les phares de la planète sont automatiques, sont automatisés. Et là, ça invite à une question. Est-ce que moi, dans ma vie, je suis automatisé? Est-ce que moi, dans ma vie, je fais que des choses utiles, que des choses rentables, que des choses... Et je trouve qu'effectivement, dans notre société, on ne prend pas le temps de faire des choses pour le plaisir ou pour, juste pour le faire. On est souvent très automatique comme des phares automatisés. Alors oui, c'est l'anecdote du point de départ de mon livre.
Et si je ne me trompe pas, on appelle les phares en haute mer
oui,
les enfers.
Génial.
Donc, vous posez cette question, est-ce que l'enfer est automatisé?
C'est intéressant, vous le faites souvenir, parce que c'est le nom des phares. Les phares les plus éloignés, les enfers, les phares sur des îles purgatoires, puis des phares sur une terre ferme, on les appelait les paradis dans la nomenclature des phares, oui.
Ce qui est mentionné également, parce que vous aimez les mots, vous aimez jouer avec les mots également, ça ressort beaucoup dans tout ce jeu avant 100 ans, il y a le refus ou l'échec qui peut être un rebond même.
Moi, ma vie est un paquet de refus. Effectivement, j'étais refusé en psychologie. Ce manuscrit, au début,
ça a été refusé par tous les éditeurs. Ouais.
Alors, je me suis dit, peut-être que dans le mot refusé, il y a le mot fusé quelque part. Alors oui, je me suis mis, comme ce livre-là, donc c'était un conte. Et c'est devenu ce que j'appelle un essai psycho-philo-poétique. Mm-hmm. Donc oui, j'ai caché de la poésie du conte Gardien de phare qui était refusé. Mais donc, ouais, c'est ça, le jouer avec l'obstacle. Il y a quelque chose qui m'est refusé, c'est un obstacle. Comment je vais composer avec ça? Donc, il y a ça, le refus. Il y a aussi la mort de mon père qui a inspiré l'écriture de ce livre-là aussi. La mort, c'est, si on veut parler du sens du jeu de la vie, la mort, c'est quand même, ça nous confronte à une réalité de la limite de notre temps de jeu. Quand je dis tout ce jeu avant 100 ans, c'est qu'il y a un temps de jeu illimité. Hein? On va s'entendre. On ne pourra pas jouer tout le temps. Donc, c'est peut-être le temps de commencer.
Et de se rapprocher de ce qu'on a envie de faire, simplement pour le faire, et de s'éloigner. Ça m'a pris du temps à comprendre le jeu de mots de l'île faux.
Ben
vous
oui.
décrivez l'île faux comme une île où on se contraint à faire des choses parce qu'il se doit.
Et c'est intéressant que ça vous a pris un certain temps avant de l'enregistrer parce qu'on est une société dans laquelle l'île faux est cachée. J'appelle ça les vapeurs de l'île faux qui sont cachées quelque part. C'est quand j'écoute quelqu'un, moi comme thérapeute, j'écoute quelqu'un, le nombre de fois où il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut pas que je fasse ça. Où est-ce qu'il y a le « je désire »,« je veux » Où est-ce qu'il y a le « je » dans le « il » Le « il », c'est qui ça « il » On ne sait pas c'est qui ça « il ». Donc, souvent, j'observe derrière, puis ça, c'est le paradoxe de notre société actuelle, on se prétend individualiste, mais on est extrêmement conditionné par les « il faut ». Il faut que je mette mon iPhone à jour, il faut que je m'achète telle chose, il faut que... Donc, c'est épuisant, les « il faut
mm-hmm. ».
Alors, qu'est-ce que je veux? De retrouver un « je », c'est un processus qui est extrêmement important aujourd'hui. Mm-hmm. Retrouvons, puis c'est pas de l'égocentrisme ici, c'est l'idée de retrouver une présence unique, un jeu. D'ailleurs, le jeu, je fais le jeu de mots, un jeu, c'est un petit jeu qui vient jouer avec un grand U,
ouais,
le grand U de l'universel. Mais quand le jeu, il est trop collé sur le U, il n'y a pas de jeu entre le U, hein? Qu'est-ce qui arrive? Quand un jeu qui est trop collé sur le U, il n'y a plus de jeu avec le U, alors il est pris dans l'universel. Le terroriste, qu'est-ce qu'il fait le terroriste? Il est collé sur son livre, il n'y a pas de jeu entre
lui. Et dans l'île faux.
Et dans l'île faux, complètement. Le terroriste, il a peur, mais il ne sait pas qu'il a peur. Donc là, il se fie à des livres, il colle son... Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur. Quelqu'un qui a peur, mais qui ne sait pas qu'il a peur.
Mm-hmm.
C'est la racine du terrorisme. C'est des gens qui ne portent pas leur peur.
Et vous posez cette question-là, et ça revient avec l'introduction où l'on parlait du nombre effarant d'heures consacrées aux jeux vidéo, mm-hmm. qui est un espace virtuel, mm-hmm. donc individuel ou peut-être parfois aussi. Mais comment on fait pour l'amener du point de vue collectif?
C'est une belle question. Quand je vois un jeune qui se réfugie dans le jeu vidéo, à la fois, on voit qu'il est tout seul, mais il y a un désir de connexion à quelque chose qui est plus grand que lui.
Ouais.
Et c'est ce qui nous amène à explorer qu'est-ce qu'on cherche dans nos cellulaires, qu'est-ce qu'on cherche. Peut-être qu'on cherche une forme de transcendance, peut-être qu'on cherche une forme de connexion réelle avec l'autre. Bien sûr, le moyen nous donne une illusion de connexion à l'autre, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le désir derrière. Et je ne juge pas ce désir-là. Il y a un désir de connexion, il y a une soif, il y a une faim de connexion. Mm-hmm. Au-delà d'un monde sans fil, c'est paradoxal, on vit dans un monde sans fil, mais on n'a jamais été aussi emmêlé que dans un monde sans fil. Mais donc, il y a une recherche de connexion qui est là. Et c'est ça, retrouver le jeu, c'est ça. C'est qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire dans ça?
Et vous donnez des petits trucs. Moi, j'aime beaucoup ce qui est concret. À un moment donné, quelque chose que j'ai trouvé hyper flyé, Jean-François Vézina, que je pense que j'aurais pas l'audace de faire. Vous imaginez dans le métro, soit vous ou soit votre lecteur, finalement, et il y a deux figures de cas. Justement, la personne dont on parlait ensemble qui est rivée à son écran, son cellulaire, son ordinateur, sa tablette, et l'autre qui décide d'aller vers... L'autre.
C'est loin l'autre. Il est loin l'autre dans un métro.
Et de poser des questions. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ça peut être... On peut faire ça, vous pensez?
Je ne sais pas s'il faut. Mais j'invite à vivre l'expérience de ce que ça me fait. Parce que quand je suis rivé sur mon écran d'ordinateur, je ne prends pas conscience que j'ai peur de l'autre. Ma tablette, c'est un peu comme une doudou, comme un objet transitionnel qui me donne une impression de sécurité. Donc, je n'ai pas conscience que j'ai peur de l'autre. Donc, c'est une invitation à qu'est-ce que je ressens quand je suis dans un métro. Parce que si je suis toujours en train d'avoir peur, mais je ne sais pas que j'ai peur, je perds ma vie. Il y a quelque chose qui est vivant qui se perd. Donc, oui, d'explorer qu'est-ce que ça me fait d'aborder un inconnu. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais explorer ce que ça me fait à l'intérieur de moi, la possibilité d'entrer en connexion avec quelqu'un d'autre.
Vous m'avez fait voyager avec cet exemple de de
bague.
Si on la tourne, on devient invisible.
Ah, ça, c'est basé sur, vous savez, le Seigneur des Anneaux, on pense qu'il a inventé Tolkien. C'est basé sur une mythologie, le roi Gygès. Le roi Gygès qui est un Lydien. Les Lydiens, c'est eux qui ont inventé les jeux. Hein. Je laisse les gens aller voir le livre. Si... Les Lydiens viennent de Ludus, Ludothèque, tout ça. Donc oui, Gygès, c'est un roi qui a trouvé une bague et qui, quand il tourne la bague, il devient visible. Quand il tourne dans l'autre sens, il devient visible. Alors, il s'est dit, il y a un pouvoir d'être invisible. Je vais prendre ce pouvoir d'être invisible puis je vais m'emparer du royaume. Alors oui, il y a un jeu philosophique ici et j'invite les gens à faire un trou dans le livre, sentir ce que ça fait de faire un trou dans un livre aujourd'hui et de se faire une bague magique.
Un livre qui est à nous.
Oui, mais c'est ça qui est le paradoxe. À partir du moment où je déchire ma page ou je fais un trou dedans, il est à moi. À partir du moment où je dessine, je salis mon livre avec un crayon, il est propre à moi. On appelle ça l'obsolescence programmée. Hein. L'obsolescence programmée, j'ai un iPhone, il est fait pour qu'il soit plus bon dans un an. Mais ce livre-là, il est fait pour qu'il soit plus bon une fois que vous allez le déchirer pour les autres. Mais il va être bon pour vous, ce livre-là.
Et le jeu dans votre livre, Jean-François, ça peut permettre d'entrer plus en contact, bien sûr, avec soi, mais avec le couple aussi. Comment réinventer son couple?
À l'approche de la Saint-Valentin, vous touchez quelque chose de très important. Moi, comme thérapeute, le sport national du couple, après un certain temps, c'est de vouloir avoir raison. C'est-à-dire, je veux avoir raison. On appelle ça les jeux de pouvoir.
Ouais.
75 % des couples se perdent dans les jeux de pouvoir. J'ai fait un autre livre qui s'appelle L'aventure amoureuse où j'ai illustré ça comme la jungle des jeux de pouvoir, où on est pris dans « je veux avoir raison à tout prix ». Le but de mon jeu avec l'autre, c'est d'avoir raison. Bien, si votre but c'est d'avoir raison, vous allez avoir raison, mais vous n'aurez plus de relation. Donc oui, puis c'est paradoxal parce que le couple commence dans le jeu. On commence dans l'esprit du jeu.
Le jeu de la séduction.
Le jeu de la séduction, tout ça. Puis on passe du pouvoir du jeu à deux au jeu de pouvoir. Alors oui, je propose dans mon livre de passer des jeux de pouvoir au pouvoir de jouer à deux. Mais ça veut dire accepter de prendre des risques. Ça veut dire accepter de prendre des chances. Je propose un jeu qui est assez audacieux dans tout ce jeu avant 100 ans, mais qui m'est inspiré par Esther Perel. Esther Perel qui a écrit un livre superbe qui s'appelle « L'intelligence érotique ». Elle propose aux couples qui ont plus de désir de se réinventer une correspondance érotique.
Oui. Mm-hmm.
C'est audacieux. Je leur propose ici. Inventez-vous un compte de courriel.
Juste pour vous deux.
Juste pour vous deux, pour rejouer avec vos fantasmes. Inventez-vous un personnage si vous voulez. Et donc, oui, c'est des jeux audacieux. Mais c'est ça. Si je veux vraiment retrouver le plaisir de jouer, c'est accepter le risque aussi.
Et sans juger l'autre.
Mm-hmm. Soit qu'on joue, on juge. C'est
ouais.
Effectivement.
Oui. On vient d'aborder ensemble, les minutes files, plein de types de jeux.
Ouais.
Le jeu virtuel, le jeu de la séduction, mm-hmm. le jeu des pouvoirs. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours positif? Il y en a plein de formes. Est-ce que c'est toujours positif, le jeu? Je pense, bien sûr, au jeu pathologique. C'est abordé également dans votre livre.
Mm-hmm. Ce qui caractérise le jeu pathologique ou la dépendance, c'est quand je suis intime avec mes désirs, donc quand je suis capable d'être en contact avec ce qui est là, je vais jouer avec ce qui est là. Si je ne suis pas intime avec mes désirs, si je ne suis pas intime avec ce qui est là, tout mon jeu va porter à fuir ce qui est là. Soit je joue, soit je suis joué. Alors, ce qui conduit vers la dépendance pathologique, c'est que je suis continuellement en coupure avec ce qui est là, que ce soit par les moyens Internet, drogue, ça. Donc, la racine de l'addiction ou la dictature, c'est qu'il y a un régime de peur à l'intérieur. La dictature, c'est ça. Il y a un dictateur qui s'appelle la peur. Donc, si je veux jouer, rester en contact avec ce qui est là. Si je veux fuir la réalité, à ce moment-là, il y a des chances que je sois dans l'addiction parce que je suis toujours en train de fuir la réalité.
Et vous invitez vos lecteurs à accepter leur manque, à les aimer aussi.
Moi, je pense qu'on donne le mieux ce qui nous a le plus manqué.
Mm-hmm. Oui. Ça, je m'en rappelais, Jean-François Vigilant. Quelle belle leçon. J'aimerais terminer en vous posant une question que vous posez d'entrée, en fait, assez rapidement dans le livre, la question phare du jour qui peut changer constamment. Quelle est la vôtre aujourd'hui?
Qu'est-ce qu'être vivant?
On va se laisser là-dessus. Jean-François Vizina, vous êtes auteur, psychologue, conférencier, musicien. Vous étiez là pour nous parler de « Tout se joue avant 100 ans ». C'est publié aux éditions de l'Homme, mais on peut aller sur votre site jfvizina.net.
Oui, je donne une conférence à Montréal mardi prochain. Si les gens veulent venir, tout sur mon site, au Centre Saint-Pierre, mardi prochain.
Ah, c'est à côté d'ici en plus.
Voilà, mardi.
Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Suzanne Laberge.
Oui, bonjour madame.
Vous êtes professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal et je vous cite dans un article qui est paru dans la Presse Plus il y a de ça quelques semaines, un article signé Isabelle Audet, où vous disiez que la bonne nouvelle dans bouger en famille, c'est que le parent, il devient un modèle. Et ça me parlait beaucoup parce que ce n'est plus « va jouer dehors » ou « habille-toi et va faire ton sport », mais c'est « on y va ensemble ». Ça change la dynamique d'une famille.
Oui, définitivement, c'est un rapport humain qui est privilégié entre des parents et des enfants. Et à travers une expérience corporelle partagée, là, un jeu, quelque chose comme ça, c'est sûr que l'impact est beaucoup plus grand. Parce que tout ce qu'on vit dans notre corps, ça nous marque davantage.
Mm-hmm. Dans cet article, il est également mentionné que de plus en plus, les centres sportifs, les municipalités aussi vont offrir des activités parents-enfants, pour tous les âges. Est-ce que c'est un phénomène qui est nouveau dans notre société ou ça fait longtemps que ça existe?
Non, ça, c'est relativement nouveau. C'est sûr qu'avant, c'était séparé. Toujours les programmes, les activités étaient selon les groupes d'âge, mais de façon discrétionnaire. Donc, un groupe, les 5 à 10 ans, les 10 à 15 ans, puis bon, on s'entend que les 20 à 35 ans, c'était notre gang. Donc, c'est très nouveau. Et bien parce qu'il y a une demande, et la demande s'explique en partie par le mode de vie dans lequel on est. Alors, les parents sont très occupés avec tous les médias sociaux, les téléphones cellulaires, le travail continue après les heures de travail, donc souvent à la maison. Les enfants ont un tas d'activités et puis finalement, les gens ne se parlent plus. Et là, le fait de faire des activités, bon, on s'entend qu'on présume que le téléphone cellulaire est mis de côté lors de ces activités-là, ben là, on est enfin ensemble, on peut se parler, c'est réservé à nous et c'est réservé au plaisir, ce qui est merveilleux. Ben, enfin, on le souhaite, là, évidemment, après ça, il y a toujours quelques réserves parce qu'il y a différents types de parents. Mais bon, on s'entend qu'optimalement, c'est donc dans un contexte ludique où, en plus, ce qui peut être intéressant, c'est que dans certains cas, les parents qui ont un certain âge, éventuellement, ben, ont perdu certaines habiletés motrices que, par ailleurs, certains peuvent avoir parce qu'ils sont jeunes, sont plus flexibles, etc. Et donc là, l'enfant peut voir son papa ou sa maman ne réussit pas aussi bien que lui. Alors, il y a aussi cette
valorisation de l'enfant.
Oui, et puis une fraternité, c'est plus l'autorité qui parle, mais il y a un peu une équivalence au niveau des pratiques motrices, pratiques corporelles. Donc, ça met des rapports sociaux, vraiment des rapports familiaux, des rapports parentaux vraiment plus conviviaux.
J'ai l'impression aussi qu'il y a un lien avec les modèles familiaux qui ont beaucoup changé, c'est-à-dire la maman, le papa monoparental qui n'a pas d'autre temps, c'est-à-dire qu'il ne peut pas constamment faire garder les enfants, s'absenter pour le gym. Donc, il y va avec ses enfants.
Ben oui. Et souvent, avant, ce qui se passait, c'est que les parents étaient les taxis. Alors, bon, ça se produit encore, remarquez. Ils vont conduire les enfants pour le hockey, pour le soccer, mais ils ne jouent pas, eux. Ils sont là, ils attendent, ils regardent leur enfant, puis ils applaudissent, puis ils l'encouragent. Mais ils ne jouent pas. Alors, c'est pas le même, évidemment, on s'entend que c'est pas du tout le même type de rapport. Alors là, d'avoir des activités en famille, là, ben, le parent, il est plus assis, lui aussi, il peut bouger.
Suzanne Laberge, vous qui êtes professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal, est-ce que vous pensez que le plaisir ou l'intérêt qu'un adulte, qu'un parent a pour un sport, le sport en général, peut se transférer chez l'enfant? C'est-à-dire, est-ce qu'un enfant qui a vu son parent aimer le sport et en faire va être plus porté à en faire?
Oui, ça, c'est documenté. Quand les parents sont actifs, il y a beaucoup plus de probabilité que les enfants soient actifs. Jusqu'à un certain seuil, bien sûr, mais là, on est dans le bout de la courbe, où ce seraient des parents qui poussent trop des enfants, qui, eux, pour toutes sortes de raisons, n'aiment pas ça, aiment mieux d'autres choses. Et parfois, certains parents peuvent avoir tendance à projeter leur rêve, par exemple, d'avoir été Wayne Gretzky, ou je ne sais trop, mais qu'ils n'ont pas pu être, et que leur enfant serait le Wayne Gretzky qu'ils n'ont pas été. Ceci peut amener à des pressions, que ce soit là-dedans ou en natation ou en autre chose. Ça arrive. Alors, c'est sûr que s'il y a une influence des parents qui est positive là, sur la pratique d'activité physique des enfants. Toutefois, on ne peut pas ignorer qu'il y a des cas abusifs un peu, où il y a trop de pression. Faut laisser à l'enfant quand même la liberté de goûter à une diversité d'activités physiques. Ça, c'est vraiment crucial. Et puis de choisir qu'est-ce qu'il aime mieux et pour toutes sortes de raisons, parce qu'il a sa personnalité à lui.
Et vous le dites également, c'est que c'est assez, en fait, tout est positif dans le fait de bouger en famille. Ce qui l'est moins, c'est quand il y a, bon, là, vous venez de bien le mentionner, la pression, mais également la compétition. L'adulte est souvent au quotidien, que ce soit au boulot, là, dans la compétition, mais de ne pas amener ça auprès du loisir avec l'enfant.
C'est ça. Là, ce serait l'autre aspect qui serait négatif. C'est si le parent, par souci de maintenir son autorité et sa préséance auprès de l'enfant, ben là, est en compétition avec lui et le petit garçon ou la petite fille, il ne gagne jamais parce que le papa veut pas accepter de perdre. Un papa, ça perd pas ou une maman, ça perd pas parce que c'est une maman ou c'est un papa. Là, c'est sûr que c'est évidemment préjudiciable.
Mm-hmm. Et où la compétition avec l'autre équipe?
Aussi, éventuellement. C'est sûr que là, on espère que les parents vont avoir une attitude respectueuse. En fait, ce que, en principe, le sport doit développer, donc certaines valeurs, dont le respect des autres, le respect des adversaires, le fair play, bon, toutes ces choses-là. Mm-hmm. On s'entend que c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, la réalité, dans un univers dans lequel on est, qui est archi-compétitif et qui a un faire-valoir et où la performance est tellement valorisée, il peut arriver des dérives de cet ordre-là, oui, malheureusement.
Donc, on adopte une attitude plus liée au plaisir puis au libre choix aussi si on fait choisir l'enfance l'activité.
Exactement. Et c'est si l'enfant choisit son activité puis qui n'est pas celle préférée par le parent, ben ça peut permettre justement d'avoir ce contexte qui est plus équitable dans le sens où le parent, ben là, n'a pas le dessus sur l'enfant, mais lui aussi, il apprend. Lui aussi, il joue puis il faudra qu'il le fasse aussi pour le plaisir. Donc, il faudra qu'il laisse de côté l'intention de gagner.
Mm-hmm. Et dans tout ça aussi, c'est la promotion de la santé et l'adoption de saines habitudes de vie qui demeurent.
Ben, on espère que si on vit pendant de nombreuses années, c'est une longue socialisation, là, du plaisir à faire des activités physiques, là, corporelles, des jeux physiques comme ça. Il est possible que durant certaines périodes de la vie, au moment où les gens commencent à fonder leur famille, acheter leur maison, commencent leur carrière, ça peut baisser. Ça peut baisser dans certaines périodes de vie plus intenses où il y a d'autres priorités. Mais si on a vraiment beaucoup apprécié nos expériences qu'on a vécues quand on était enfant, ça va revenir. Et ça, on a beaucoup d'illustrations à cet égard de gens qui se remettent une fois qu'ils ont passé des moments plus différents de leur vie ou d'autres enjeux, d'autres priorités l'ont emporté. Bon, ben là, ils se remettent parce que finalement, ils disent, ben, on n'a qu'une vie à vivre. Et puis, oui, la carrière, oui, l'hypothèque, la maison, etc. Mais il n'y a rien comme le plaisir de se sentir bien dans sa peau.
Oui, avec ceux qu'on aime.
Voilà.
Ouais. Suzanne Laberge, vous êtes professeure au département de kinésiologie de l'Université de Montréal et on encourage bien sûr les gens qui nous écoutent à regarder là autour d'eux, que ce soit les centres sportifs ou centres de conditionnement physique de leur quartier qui proposent des activités en famille sportive. Merci beaucoup de votre présence.
Ça m'a fait plaisir.
Merci Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Marianne Paquette au micro, je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.